Donc, le but, c'est que le Seigneur règne dans notre vie. Alors, pour cela, on a besoin de sa grâce. Mais la Bible, donc, nous encourage à croître, à grandir dans cette grâce. Donc, je vous invite ce matin à lire avec moi un passage dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 3. Donc, dernier chapitre de la deuxième lettre de Pierre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. On trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, les deux premiers versets, un très bon résumé des étapes de la vie chrétienne. Ces versets disent, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » On trouve les différentes étapes de la vie chrétienne, le fait d'accéder à la grâce à travers notre foi en Jésus-Christ, puis le fait de demeurer dans la grâce une fois qu'on y a accédé, et puis notre espérance de vivre éternellement dans la gloire par la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit dans les annonces tout à l'heure, la semaine prochaine, ce seront les jeunes adultes qui vont nous accompagner dans notre culte. Moi, je serai là encore jusqu'au mi-août, et là, on va partir quelques jours en vacances. Mais sur les 3 semaines, donc, d'ici là, autour du culte des jeunes adultes, on va regarder ensemble ce que la Bible nous dit sur l'importance de croître dans cette période où nous demeurons dans la grâce de Dieu, l'importance de croître pour s'affermir dans la foi, pour rester ferme. Pierre dit, « Vous, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Donc, on doit rester ferme, fermement ancré dans le Seigneur, fermement ancré dans la foi qui a été transmise, dit Pierre, par les prophètes et par les apôtres. Et pour faire cela, donc, il nous dit que nous devons croître dans la foi, croître dans la grâce. Et donc, on verra l'importance de ceci, donc particulièrement aujourd'hui. Et puis, les 2 autres fois, on va regarder les moyens concrets que Dieu nous a donnés dans l'objectif de pouvoir croître dans la grâce. Qu'est-ce que Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il nous donne comme moyen pour croître dans la grâce qu'il nous fait. Mais donc, tout démarre par le fait d'entrer dans la grâce, d'accéder à la grâce, comme dit Pierre dans ce passage, de recevoir la grâce de Dieu. Pierre dit que Paul aussi parle de ces choses dans toutes ses lettres. C'est ce qu'on voit en particulier au sujet d'entrer dans la grâce et l'importance d'entrer dans la grâce. Dans Éphésiens, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, que nous allons lire. Éphésiens 2, premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si on parle d'entrer dans la grâce de Dieu, c'est sans doute à ce passage qu'on pense en premier. La Bible nous dit que donc Dieu nous avait créés dans l'objectif de vivre en relation avec nous. Ce que Dieu désire et a toujours désiré, c'est de vivre en relation avec nous. Mais la Bible nous montre qu'à partir du moment où le péché est entré dans la race humaine, depuis lors, nous naissons avec une tendance au péché. Paul peut dire, nous tous, nous étions du nombre de ceux qui commettaient le péché, nous étions donc éloignés de Dieu. Romains 3, verset 23 nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc de la présence de Dieu. Privés de sa présence, privés d'être avec lui à cause du péché, tous ont péché parce que tous nous naissons avec cette tendance à pécher qui va se manifester de différentes manières selon les personnes, mais qui se manifestera parce que nous sommes faits ainsi, nous sommes nés ainsi car ça fait partie de notre nature humaine que nous avons hérité de génération en génération depuis Adam et Ève jusqu'à nous. Et donc on voit dans Éphésiens 2, l'apôtre Paul définit cette tendance à pécher par le fait de vivre selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Autrement dit, par le fait d'être nous et de faire ce qui nous plaît. La Bible définit ainsi le fait d'être pécheur, c'est je fais tout ce qui me passe par la tête, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Finalement, tout ce que la société nous dit qu'on devrait faire, tout ce que la société dit nous épanouira, Dieu nous dit au contraire, tout ce que vous pensez va vous épanouir. Finalement, c'est comme lorsque Ève a vu le fruit sur l'arbre dans le jardin d'Éden, qu'elle a vu que ça avait l'air agréable, que ça avait l'air bon à manger et que ça avait la promesse de l'épanouir en la rendant divine. Ben, tout cela, Dieu dit, ça ne va pas vous épanouir. Dieu avait dit déjà à Ève, sachez que le jour où vous en mangez, vous mourrez. Car au lieu d'apporter l'épanouissement promis, ça nous exclut de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que tous nous nous trouvons dans cette situation parce que c'est dans notre nature, tous nous le faisons. On dit, ça s'exprimera de manière différente les uns des autres. Nous ne faisons pas tous la même chose. C'est comme lorsque l'apôtre dit, tu n'as pas commis de meurtre, ben tant mieux. Mais tu as commis l'adultère. Et donc il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu. Tous ceux qui ont agi à l'encontre de Dieu, tous ceux qui ont agi par péché se trouvent dans la même situation avec ce résultat de mort. Parce que Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement pour nous, le verset continue en disant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il est tellement important d'entrer dans la grâce. Ce n'est pas juste une question d'avoir un petit plus dans notre vie. C'est-à-dire, on est comme les autres, mais bon, on a juste un petit plus, on a une petite paix, on se sent bien, on a cette pensée que Dieu nous accompagne. La Bible dit, la foi chrétienne, la grâce de Dieu, le fait de venir à Dieu par sa grâce, n'est pas juste un petit plus. C'est la différence entre être vivant et être mort. Et donc la Bible nous dit qu'il est essentiel d'entrer dans la grâce. La Bible nous dit que donc tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Si les prochaines fois on va regarder ensemble les moyens que Dieu nous a donnés pour croître dans la grâce, déjà Dieu nous dit le moyen qu'il nous a donné pour accéder à sa grâce, c'est Jésus-Christ, c'est son sacrifice. D'où le passage que j'ai lu il y a quelques moments de Romains 5, « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. » Nous avons absolument besoin de la grâce de Dieu, car en tant que pécheurs, nous sommes privés de la gloire de Dieu, de sa présence. Le seul moyen d'y entrer, c'est si Dieu nous fait grâce, et il nous dit qu'il nous fait grâce à travers l'œuvre et le sacrifice de Jésus-Christ, où le Seigneur a pris sur lui nos péchés et notre mort qui était le résultat, le salaire de notre péché. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, parlant de Jésus, il dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, donc sur la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. » Il a pris notre mort et il nous libère de la mort. Lorsqu'on chantait tout à l'heure de Jésus-Christ qui a vaincu la mort et son pouvoir, c'est parce que en Jésus-Christ, nous avons le moyen de passer de la mort à la vie, d'être transformé totalement, radicalement de quelqu'un qui est mort et privé de la gloire de Dieu, à quelqu'un qui est vivant dans le Seigneur et donc qui peut pénétrer en Jésus-Christ dans les lieux célestes, dans la gloire de Dieu devant son trône. Et donc, il est essentiel de recevoir cette grâce, d'accéder à cette grâce pour passer de la mort à la vie. En Jean 3, verset 5, lorsque Jésus parlait avec le chef juif Nicodème, il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On peut être quelqu'un de très bien, avec une certaine moralité, qui cherche à faire du bien autour de soi. Mais Jésus dit, si on ne naît pas d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe l'origine, peu importe l'arrière-plan, peu importe le caractère, Jésus dit, à part le fait de naître de nouveau, parce qu'il dit à Nicodème, c'est pour ça que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. À part cette nouvelle naissance, lorsqu'on reçoit la grâce de Dieu en venant à lui par Jésus-Christ et en passant par son sacrifice, Jésus dit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pour cela qu'il est tellement essentiel d'entrer dans cette grâce. Et entrer dans la grâce, recevoir la grâce, accéder à la grâce dans la pratique est très simple. D'ailleurs, tellement simple que certaines personnes trouvent que c'est trop simple pour eux. Même, c'est comme dans l'Ancien Testament, l'histoire de Naaman, lorsqu'il va voir le prophète avec sa lèpre, parce que la fille israélite qui a été emmenée en esclavage lui dit qu'en Israël, il se trouve un prophète capable de les guérir. quand il va voir Naaman et Naaman lui dit d'aller se baigner dans le Jourdain, il s'en va fâché. Et c'est uniquement lorsque ses serviteurs lui disent « Mais s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais bien fait. Puisqu'il te demande quelque chose de simple, pourquoi s'obstiner en disant bah, « c'est trop simple, je pourrais le faire beaucoup mieux. » Ce n'est pas à nous d'expliquer à Dieu comment il doit faire des choses. Dieu nous dit « Voici ce que j'ai fait pour vous. » Maintenant, ce que je te demande, c'est d'accéder à la grâce en venant à moi en Jésus-Christ. C'est pour ça que tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais ne mènent pas au paradis. Tous les chemins ne sont pas égaux. Dieu a choisi de nous donner accès à sa grâce à travers Jésus-Christ. Et lui seul. Les apôtres ont dit, il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. On peut être bien intentionné, on peut être sincère en voulant passer par un autre chemin, mais le Seigneur a dit, c'est par Jésus-Christ que j'ai fait ce qui est nécessaire, c'est lui que j'ai choisi comme sauveur, comme Seigneur, c'est lui que j'ai constitué sacrifice pour le péché. Donc dans la pratique, accéder à la grâce de Dieu passe par le fait de reconnaître que ce que Dieu nous dit est vrai. Que Dieu est la vérité, qu'il ne ment pas, qu'il veut bien dire ce qu'il dit, il veut bien dire ce qu'il dit à notre sujet quand il dit que nous naissons dans le péché, que nous naissons pécheurs, et que le fait de suivre nos propres désirs nous conduit dans le péché, que nous avons besoin de lui, que ce qu'il a dit au sujet de Jésus est vrai. Vous avez remarqué tout à l'heure dans le passage qui nous était lu, Jésus dit à Pilate, « Je suis né et j'ai vécu sur la terre pour rendre témoignage à la vérité, pour proclamer que la vérité est vraie, que ce qui est dit sur Dieu est vrai. » Accéder à la grâce, donc, passe par le fait d'accepter ce que Dieu dit, de reconnaître que c'est vrai, reconnaître que lorsque Jésus est mort, il a pris notre mort. Il a pris nos péchés sur lui et qu'il ôte les péchés pour que nous puissions accéder à la grâce de Dieu et accéder à la gloire de Dieu. Ça passe par le fait de décider de suivre Dieu dans ce qu'il nous dit, d'obéir à ce que Dieu nous dit. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Accepter que tout ce que Dieu dit est vrai, que son enseignement est la véritable manière de vivre, et que donc là où ma vie ne correspond pas à ce qu'il dit, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de changer de direction. Si tel est le cas, si nous croyons dans ces choses, Dieu nous dit qu'on accède à la grâce et par la grâce, nous sommes sauvés. Il est donc important, essentiel, d'accéder à la grâce. On a vu il y a quelques dimanches de cela, la Bible parle non seulement de la grâce pour être sauvé, mais parle de grâce sur grâce. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 16, parle de recevoir grâce sur grâce. Le début de la vie chrétienne, est défini par la grâce, comme nous venons de voir. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Souvent résumé par la conversion, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, qui font partie de cette réception de la grâce de Dieu, le début de la vie chrétienne. Mais chaque fois qu'on fait les préparatifs au baptême avec les candidats pour le baptême, on voit que ce début de la vie chrétienne, la conversion, le baptême d'eau, le baptême de l'esprit, ce n'est que le début et non pas la destination finale. On n'est pas censé dire, oh, ben, voilà, maintenant c'est bon, j'ai mon ticket pour le ciel, j'ai juste à m'asseoir quelque part et attendre le retour du Seigneur tranquillement parce que j'ai tout ce qu'il faut. La Bible nous met comme objectif le fait de continuer à grandir, continuer à avancer dans la foi et dans la grâce. Le Seigneur a encore tellement de grâce prévue pour nous après le fait d'entrer dans la vie chrétienne. Il y a quelques semaines, justement, on avait regardé cette question de grâce, de recevoir grâce sur grâce dans le contexte de cet appel à recevoir des dons de l'Esprit, les dons que Dieu désire donner à son peuple pour le servir. Et le mot qui est traduit dans le Nouveau Testament parlant des dons de l'Esprit, c'est le mot grec des charismes. Et les charismes trouvent comme racine le mot charis, qui est le grec pour grâce. Les dons de l'Esprit, les charismes sont donc des dons de la grâce de Dieu, les dons que Dieu nous donne dans sa grâce. Ce qui veut dire que, comme pour notre salut, ces dons sont des choses qu'on ne mérite pas. Il ne faut pas imaginer, ah ben, ces dons-là, c'est que pour une certaine classe de chrétiens bien au-dessus de moi. C'est un don de la grâce. Donc si Dieu est capable de nous sauver, il est aussi tout aussi capable de nous donner les dons de sa grâce. Ce n'est pas non plus un commentaire sur la personne qui le pratique. Ce n'est pas un espèce de tampon donné par Dieu pour dire, voilà, lui est approuvé, cette personne mérite ceci, cette personne est donc forcément un exemple à suivre. Ça devrait être le cas, mais c'est une autre question. Parce que c'est un don de la grâce de Dieu. On ne dit pas, ah ben telle personne s'est convertie, telle personne est entrée dans la grâce de Dieu, a reçu la grâce pour être sauvée, donc forcément c'est quelqu'un de bien. Généralement c'est le contraire. La Bible nous dit que Dieu nous a choisis pour montrer la grandeur de sa grâce, de la grandeur de sa gloire, en nous prenant et en pouvant faire de nous ses enfants et les héritiers avec Jésus-Christ. Donc, dès qu'on parle de quelque chose qui vient par grâce, ça élimine tout moyen de se vanter et de dire, bah, regardez à quel point moi je suis bien. Justement, le passage biblique qui parle le plus des dons de l'Esprit, le plus de ces dons de la grâce, c'est dans Corinthiens, quand l'apôtre Paul est en train de leur dire, arrêtez de jouer comme des petits-enfants dans la cour de récréation, en montrant que vous êtes forcément meilleur que l'autre, parce que vous pratiquiez tel don. Et ce sont des dons de la grâce de Dieu. Ça montre Dieu, pas toi. Ce sont des choses, des grâces à recevoir et à vivre, comme nous recevons le salut par la grâce de Dieu. Mais dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, dans 2 Pierre chapitre 3, ce chapitre termine par un impératif, encore une fois, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un ordre qui nous est donné de croître dans la grâce. Pierre est en train d'écrire à des chrétiens et dit, c'est formidable, vous êtes entrés dans la grâce, vous êtes passés de la mort à la vie. Mais maintenant, voici mon instruction pour vous, moi, apôtre du Seigneur et sauveur qui a transmis son enseignement à travers moi. Vous, bien-aimés, qui êtes avertis, croissez dans la grâce. Ne dites pas, ah ben ça y est, j'ai reçu le salut, je me suis fait baptiser, peut-être j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai un don que j'exerce. Il dit, mais croissez encore dans la grâce. Continuez à aller de l'avant, continuez à grandir. Ce n'est pas juste une grâce reçue pour commencer la vie. Lorsque l'enfant naît, sa naissance est à un moment donné, un moment précis dans son histoire. Mais il ne reste pas comme cela. Si ce matin, j'étais là devant vous, en couche et avec les chaussettes qu'on m'avait données le jour de ma naissance, bonjour le spectacle. Parce que depuis, j'ai grandi. Tout au long de notre vie, notre croissance continue. Bon, dans le terme vertical, il y a un moment où ça a tendance à stopper et puis ça passe dans d'autres sens. Mais on continue à croître physiquement, j'espère aussi mentalement, socialement, dans le fait de croître encore dans notre manière, dans nos connaissances, dans notre sagesse. Le but, c'est de continuer à croître tout au long de notre vie. Pierre donne la même instruction pour notre vie chrétienne. Il dit, formidable, vous êtes né, mais vous n'êtes pas censé restez un gros bébé assis sur votre chaise. Vous êtes maintenant censé croître et continuer à avancer toujours dans la vie chrétienne. C'est intéressant que la Bible présente souvent la vie chrétienne sous image de fruits. Jean chapitre 15, versets 1 et 2. « Je suis le vrai cep, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. » Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ceci, il dit, c'est comme un arbre fruitier qui aussi continue sa croissance, qui porte du fruit et qui doit encore porter du fruit. Si vous avez un arbre fruitier dans votre jardin, vous ne dites pas la première année où vous avez peut-être eu une pomme sur l'arbre, ah ben c'est formidable, il a fait son boulot, il a porté du fruit. Vous vous attendez à ce qu'il continue à croître et à ce que l'année prochaine, il porte encore du fruit et sans doute plus. Et ainsi de suite l'année suivante. Ça vous semble normal que cet arbre continue sa croissance. Le Seigneur dit, je suis le cep, vous êtes des sarments, vous êtes censés porter du fruit. Pas juste le jour de notre nouvelle naissance, mais tout au long de la vie, tout comme un fruitier, tout au long de sa vie, doit porter du fruit. Galates 5 aussi, verset 22, parle de la vie chrétienne en termes du fruit de l'esprit qui doit se développer en nous. Car le fruit se développe, mûrit tout au long de la vie de l'arbre. Et dans ce contexte, j'ai trouvé intéressant le passage bien connu en Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, quand Jérémie écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Et ce qui est intéressant, c'est donc dans l'Ancien Testament, dans l'hébreu, le terme qui est traduit en français « les bontés de l'Éternel », c'est un mot complexe en hébreu « kesed », qui implique aussi grâce. Il y a cette notion de grâce dans ce terme traduit par les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. La grâce de Dieu se renouvelle aussi à notre égard chaque matin. Ce n'est pas quelque chose qu'on a reçu une fois pour toutes le jour de notre nouvelle naissance. Ça se renouvelle jour après jour. Nous sommes appelés à vivre tous les jours dans cette grâce, de recevoir tous les jours cette grâce, de croître tous les jours dans cette grâce. Donc les prochaines fois, comme j'ai dit, nous allons voir la provision de Dieu pour nous aider à réaliser cet objectif. Mais il est tellement essentiel à nous rendre compte, comme dit Pierre dans cette lettre, d'être averti des réalités de la vie. Il est essentiel d'entrer dans la grâce de Dieu. Mais après, il est tout aussi important de croître dans cette grâce, de continuer à se développer dans la grâce de Dieu, de tous les jours recevoir la grâce de Dieu. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous avons besoin de croître dans la grâce pour que cette grâce soit efficace dans notre vie tous les jours. Si on se dit, ah ben j'ai eu tout ce qu'il me fallait, donc j'ai plus besoin de quoi que ce soit d'autre, il dit le risque, c'est que vivant dans une société qui va dire, mais épanouis-toi, fais ce qui te fait plaisir, fais ce que tu aimes, fais plaisir à toi. On risque, dit Pierre, de nous déchoir de notre fermeté dans le Seigneur, car on oubliera qu'on est pécheur, que notre nature propre nous conduit dans le péché. Et on se croira capable de s'en sortir et de nous épanouir tout seul. Et on s'éloignera de la grâce de Dieu et donc de sa gloire. Vous qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes. Il y aura des gens qui vont se moquer, dit Pierre, en disant, oh ben, le Seigneur, il ne va pas revenir. Tout ça, ce sont que des histoires. Il faut vivre pour aujourd'hui. Il faut vivre le royaume aujourd'hui, et parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il y en a qui vont dire, oh mais de toute façon, tout ce qui compte, c'est d'être sincère, d'avoir sa foi à soi, trouver le chemin vers Dieu qui vous correspond au mieux. Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et comment faire? Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen.